c'est Lorraine. Vous faites partie des fidèles de La Poudre. Vous venez tout juste de découvrir ce podcast. Dans les deux cas, j'ai un message important pour vous. À partir du 20 octobre prochain, La Poudre s'écoutera en exclusivité sur Spotify. Oui, oui, vous avez bien entendu. Bientôt, La Poudre, ça sera sur Spotify et pas ailleurs. Donc, si vous ne voulez pas louper la saison 6, je vous recommande très fort de vous abonner au flux de La Poudre sur l'application Spotify dans la rubrique Podcast. Ça reste gratuit, évidemment, il suffit de se créer un compte. Je compte sur vous pour me suivre chez Spotify, votre soutien est très important. Allez, on se retrouve le 20 octobre, je vous réserve des épisodes plus explosifs que jamais. Allez, en place, c'est La Poudre.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat.
Tiens, on a découpé une
femme. I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne me suis pas conduite.
Qui appelle quand même l'admiration.
D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
Des femmes artistes, activistes, inspirantes, politiques, des femmes puissantes.
Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps,
n'a pas d'époque. Elle marque son époque.
Dans la
boum
poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Myriam Leroy.
Et puis Virginia Woolf, justement, puisqu'on parlait d'elle, elle disait un truc du style « est considérée comme féministe toute femme qui dit la vérité à propos de sa vie ». Et voilà, je crois que tout est dit.
Je me rappelle bien du monde d'avant. On n'était pas si mal, finalement. On avait l'impression que tout pouvait basculer, qu'on allait peut-être enfin décider de se lever et de se barrer, et de leur dire « on vous emmerde ». On était en plein dans cette énergie le jour où j'ai rencontré Myriam Leroy à Bruxelles pour le Bruxelles Podcast Festival. C'était le 29 février, le lendemain de la cérémonie des Césars. Vous savez, celle où...
Le César de la meilleure réalisation est attribué à...
Roman Polanski pour J'accuse.
C'était le lendemain, et donc on avait une drôle de gueule de bois. Mais l'envie d'en découdre et la rage au cœur. Je vous propose de replonger comme un voyage dans le temps vers ce moment précis. De nous imaginer toutes les deux sur la scène de la grande salle de l'atelier 210 à Bruxelles, face à un public belge plein de bienveillance. Et de rêver à un après où l'on retrouverait un peu cette énergie-là. Ah, une toute petite dernière chose, beaucoup de militantes belges m'ont écrit après cette rencontre pour me dire que le féminisme était plus vibrant en Belgique que mon invité ne semble le décrire dans l'interview. Il faut leur rendre justice, c'est vrai. Nous allons donc accompagner cet épisode d'une sélection de collectifs, podcasts et associations féministes belges à suivre pour poursuivre la réflexion. Avec Myriam Leroy, on a parlé d'adolescence, d'écriture et de harcèlement. Eh bien, bonjour Bruxelles, bonjour le Bruxelles Podcast Festival, bonjour Myriam Leroy.
Bonjour.
Je suis super contente d'être là, c'est vraiment chouette. Tout le monde est bien installé, tout le monde est bien, on n'attend pas des gens, on n'a pas du retard. Ok. Bon, alors c'est parti, Myriam Leroy. Vous êtes écrivaine et journaliste, et vous me plaisez beaucoup, Myriam.
Merci.
Vous êtes devant un public belge, votre public qui vous connaît depuis des années, car vous avez sévi à la radio, à la télévision, dans la presse belge. Vous avez connu votre petit succès, hein, on peut le dire. Vous avez aussi écrit pas mal de pièces de théâtre, qui ont elles aussi eu du succès. Vous avez remporté d'ailleurs le prix de la critique en 2017, de la meilleure autrice pour Cherche l'amour. Et votre sens de la répartie fait de vous une chouchoute des médias. J'ai bien vu que vous avez fait beaucoup d'interviews, de podcasts en Belgique. La Belgique
oui,
vous adore.
À mon avis, les gens en ont marre de moi.
Alors moi, je vous ai découverte sur le tard avec un livre, Les yeux rouges, qui est sorti il y a un peu moins d'un an, que j'ai lu et qui m'a donné immédiatement envie de vous rencontrer parce que c'est un livre important. C'est un livre féministe. Et du coup, j'ai lu votre premier roman, celui que vous aviez publié avant, il y a deux ans, je pense. Vous avez pas mal enchaîné, hein, mine de rien. Et j'ai aimé tout pareil. Du coup, j'ai farfouillé sur vous. J'ai lu vos interviews, j'ai stocké votre compte Instagram. D'ailleurs, merci pour l'ajout. Et ce que j'ai vu m'a beaucoup plu. Donc voilà, je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Merci d'être là, Myriam Leroy.
Merci, je suis ravie et je suis intimidée parce que j'écoute La Poudre depuis que La Poudre existe, donc ça fait un peu bizarre, c'est un peu comme si c'était Make-A-Wish et que mes parents vous avaient payé pour m'inviter. Donc ça déséquilibre un peu la relation par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, je pense.
Ouais, moi j'ai vraiment vraiment adoré votre livre, que Virginie Despentes a adoré aussi, donc en fait, poudre ou pas poudre, je m'incline devant vous. Voilà, bon, moi j'aime pas trop interviewer les journalistes, je sais pas si ça vous fait pareil en tant que journaliste, normalement.
Interviewer les journalistes, j'en interviewe assez peu en fait.
C'est vrai, c'est un exercice particulier.
Par contre, ouais, être interviewé moi, c'est toujours un peu bizarre, surtout en presse écrite quand on se relie le lendemain dans le magazine et qu'en fait, mais j'ai pas du tout dit ça.
Ouais, les retranscriptions, ouais. C'est pour ça que le podcast c'est pas mal. Et vous produisez un discours très critique sur la presse et sur les médias. Récemment, vous avez fait un billet magnifique en référence au livre de Vanessa Springora, Le consentement. Et moi, il y a une phrase que j'ai relevée que je trouve très très juste. Ce qui m'intéresse, ce sont les pivots, les Durand, les Gisbert et tous ceux qui regrettent l'incursion de ce qu'ils appellent la morale dans le changement de paradigme que nous vivons, à savoir l'accès des dominés à la parole publique. C'est vraiment une parole de critique de médias. Vous critiquez le discours dominant dans les médias, notamment les médias français ici. C'est quelque chose qui est facile à faire quand on est journaliste. Est-ce qu'il ne faut pas prendre un pas en sortir pour pouvoir produire ce discours-là?
Mais j'ai encore ma carte de presse et je me ressens encore journaliste, mais je fais plus tellement de journalisme en fait. C'est plus tellement ce qui paye mes factures. Je suis vraiment fort passée du côté de l'écriture de fiction. Et je pense que mon discours critique sur la presse, en fait, il est venu du fait qu'un jour j'ai moi-même, enfin, on a commencé à écrire sur moi et sur une sale affaire en fait qui me concernait. Et c'est là que je me suis rendu compte de choses aussi que je faisais en tant que journaliste, d'automatismes que je pouvais avoir qui n'étaient pas très respectueux des personnes. Et je pense que c'est là que j'ai vraiment vu ce que c'était être journaliste et quelle était la responsabilité qu'on avait en tant que journaliste. Et peut-être que j'ai commencé à faire un pas de côté par rapport à ce métier parce que j'adore le métier, mais la manière dont on est autorisé à le pratiquer aujourd'hui dans la conjoncture économique notamment qui est la nôtre, ça devient très très compliqué à faire.
Oui, il a fallu faire un pas carrément en dehors pour arriver à le voir. Ouais. Quand on a le nez dedans, on ne s'en rend pas forcément compte.
Non, non, pas du tout. Quand on gagne sa vie en écrivant des choses vite, on ne s'en rend pas tellement compte.
Bon, alors vous venez de refaire ce que j'allais vous dire que vous faites. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que vous êtes écrivaine, vous dites « j'écris des trucs, je suis écrivante, je gagne ma vie en écrivant des trucs ». Donc vous n'arrivez toujours pas à dire « je suis écrivaine ».
Mais je crois que je suis vraiment autrice. Parce que, en effet, j'écris des trucs et j'écris des trucs différents et pas uniquement de la littérature. Donc, et puis, en fait, je sais pas, je trouve ça toujours un peu agaçant les gens qui se présentent comme écrivains. Enfin, il y en a qui ont écrivain dans leur signature de mail. Et je trouve ça toujours un peu grotesque.
Là, c'est un peu ridicule, mais vous avez quand même publié deux romans qui sont acclamés par la critique, qui sont de la grande littérature. C'est pas un essai journalistique, c'est vraiment de la littérature. Vous êtes reconnue comme écrivaine, vous en vivez, vous avez le droit de dire bonjour, Myriam Leroy, écrivaine, non?
Ouais, vous pensez?
Je vous l'octroie en tout cas, si j'avais une autorisation.
Je le prends, je vais le dire. Mais c'est un titre qui est... C'est peut-être de la coquetterie, en fait. Sûrement, d'ailleurs. Mais c'est peut-être... C'est parfois un peu écrasant de dire « je suis écrivain, je suis écrivaine ». En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je dirais écrivaine et pas écrivain. Même s'il y a beaucoup de gens qui disent « c'est affreux, écrivaine, on entend veine dedans ».
Alors que dans écrivain, on n'entend pas vain du tout, quoi. Au fait, ça va comment le féminisme en Belgique? Parce qu'en France, on donne des Césars aux violeurs, donc du coup, je voulais savoir si c'était bien ici.
Ouais, c'est la gueule de bois hein, ce matin. Ouais.
J'ai pas beaucoup dormi en vrai, je comprends. En même temps, un petit peu high, quoi, c'est bizarre. On a envie de brûler des trucs un peu.
Oui, oui, on oscille entre désespoir et envie de violence. Hein. Comment ça va le féminisme en Belgique? J'en sais rien. Bah, je pense qu'ici la salle est remplie, donc c'est déjà vachement une indication. En tout cas, du point de vue du discours médiatique, du langage médiatique, c'est encore un peu la préhistoire hein, sur ce type de questions. Et puis, je pense qu'on est quand même un peu en retard sur la France, qui est elle-même un peu en retard sur le reste du monde. Je pense que voilà, on en est au balbutiement de la prise de conscience et voilà, les premières lunettes féministes sont en train d'être chaussées par des gens grâce à MeToo, hein, comme partout.
Mais c'est vrai qu'on sent en France une espèce de résistance. Moi, je l'associe vraiment à la culture française, de la blague de cul. Ah bah, si on peut plus mettre les mains aux fesses des filles, est-ce que ça vaut la peine vraiment de vivre? Enfin, on a ce truc-là en France quand même. C'est un peu comme, ouais. Comme le vin rouge et le saucisson, quoi, la drague lourde en France.
Ouais, ouais. Bah oui, bah, on parle toujours de l'amour à la française, le romantisme à la française. Par contre, l'amour à la belge et le romantisme à la belge, ça n'existe pas.
Il y a moins de films dessus.
Oui, c'est pas vraiment une tradition. On s'inscrit pas dans une tradition galante extrêmement raffiné, quoi. L'amour à la belle, c'est je te roule une pelle. Enfin, voilà.
Donc le contexte favorise ni ne freine.
Non, ben on regarde quand même beaucoup ce qui se passe en France. Oui, c'est ça. Et puis on s'aligne sur ce qui se passe en France en général, mais pour tout, hein, pour la culture, pour les idées, pour le féminisme. On n'est pas un peuple d'indignés. On n'est pas un peuple. Enfin, on n'a pas la culture de la manifestation en nous. Ouais. S'il fait moche dehors, on va pas sortir, quoi. On va. Mais ce qu'il y a aussi, c'est bon côté, parce que parfois, ben, les débats qui ont lieu en France sont tellement, ça crie tellement que c'est une cacophonie, qu'on n'entend plus rien et qu'on sait même pas ce qu'on raconte. Mais ici, on raconte un peu rien du tout. Donc, ben, voilà, faudrait trouver un petit entre-deux quand même.
Mais en tout cas, moi, je sais qu'il y a beaucoup d'auditrices de La Poudre en Belgique. Je reçois plein de messages de plein de jeunes féministes belges. Ça me fait trop plaisir. Donc, j'ai parfois l'impression à distance que ça bouge hyper fort ici. Alors, Myriam Leroy, vous avez grandi à Otigny, dans le Brabant-Wallon. C'est marrant, je dis cette région, ça rigole, je ne sais pas très bien pourquoi. Alors, pourquoi les gens rigolent-ils quand je prononce
Brabant-Wallon? Parce que le Brabant-Wallon, c'est une province drôle. Pourquoi c'est drôle le Brabant-Wallon? En fait, je dois faire gaffe quand je parle du Brabant-Wallon parce que mes parents y habitent toujours et ils ont un peu peur quand ils sortent dans la rue depuis que j'ai sorti un bouquin dans lequel ma narratrice dit pique-pendre sur le Brabant-Wallon. Il y a vraiment des fatwas à Nivelles, qui est la ville où je situe mon intrigue. Je sais qu'ils sont, extrêmement choqués parce que ce que j'avais pas capté, vu que je ne connais pas Nivelles et que c'est vraiment par totalement gratuitement que j'ai situé mon intrigue là.
C'est la ville où se déroule Ariane.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est vrai que vous la dépeignez pas avec beaucoup de tendresse, cette ville dans Ariane.
Non, mais moi je me sentais tout à fait autorisée à le faire puisque c'était un personnage et je pensais que la littérature avait tous les droits.
Oups.
Oui, ben non, en fait. Mais donc les Nivellois sont extrêmement chauvins, ce que je ne savais pas puisque je ne connais pas Nivelles. Et donc voilà, ils ont accueilli le livre avec, en étant assez heurtés, en fait, à vrai dire. Et pourquoi le Brabant Wallon c'est drôle? C'est parce que c'est une province où il se passe rien, en fait, qui est considérée comme la province la plus riche de Belgique, en tout cas en Wallonie, c'est là que les maisons sont les plus chères. Mais c'est aussi un désert culturel où c'est beaucoup de cités dortoirs et c'est un endroit où on s'emmerde vachement. Et il y a peu d'artistes maudits qui sont issus du Brabant Wallon, quoi. C'est plus des dentistes ou des notaires essentiellement.
Donc elle a ressemblé à quoi votre enfance parmi les dentistes et les notaires du Brabant Wallon?
Bah, étant donné que je me faisais quand même très chier, j'ai essentiellement lu. Voilà, ça a été mon activité principale depuis que j'ai appris à lire. Et comme j'ai appris
très
à lire
très tôt, je crois, ouais. En plus. Hein, ouais.
Donc ça a été, oui, j'ai fait à peu près que ça, en fait, lire, et puis un peu m'emmerder et me croire promise à un grand destin dans une vraie ville, enfin dans un vrai endroit. Je pensais que j'allais très vite être élue, je sais pas de quelle manière, mais pour aller vivre à New York ou à Los Angeles ou.
Ça, c'était les séries américaines, peut-être, un peu,
oui,
non?
Oui, à mon avis, c'est ça. Ça devait être un excès de consommation de Beverly Hills. Et, ouais, c'est ça. Bah, c'était beaucoup d'ennuis. Mais bon, l'ennui, c'est bien aussi, quoi. C'est quand même un bon fertilisant pour la créativité et pour la rêverie.
On vous parlait comment quand vous étiez petite?
Comment on parlait? On parlait pas vraiment. À vrai dire, ben oui, je viens d'un milieu et d'une époque où les enfants avaient pas tellement, les enfants étaient pas tellement des personnes, quoi. C'est des enfants, c'était des enfants et ils n'avaient pas le droit de contredire les adultes. Alors c'est très sévère de dire qu'on me parlait pas vraiment, mais ouais, j'ai l'impression qu'on m'entendait pas vraiment. Que les adultes m'entendaient pas vraiment, m'écoutaient pas vraiment. Et c'est aussi peut-être pas plus mal d'avoir eu l'impression d'avoir eu beaucoup d'entraves à mon expression, de ne pas avoir été très écoutée, parce que il me semble qu'alors j'ai porté des choses en moi très longtemps à dire, et elles ont beaucoup fermenté, et puis un jour elles sont sorties et elles sont devenues un livre. Peut-être que si on m'avait écouté, que j'étais dans une famille très démocratique, où je pouvais négocier tout ce que je réclamais, j'aurais jamais rien écrit.
Vous seriez partie à Los Angeles et puis pouf.
Ouais.
Alors j'ai lu qu'enfant vous aviez fait une fixette sur La Petite Sirène quand vous aviez 7 ou 8 ans, j'ai fait la même. Et je l'ai revue récemment.
Ça a mal vieilli.
Avec mes enfants. Donc en fait, j'ai passé le film, c'était un enfer. Alors dire ça, c'est très sexiste. Alors là, vous voyez, c'est pas possible. Enfin, ce film est un enfer. Est-ce que vous l'avez revu ? Parce qu'en fait, quand on réfléchit au pitch, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que la fille doit plus parler.
Oui.
Et enfin, ne peut plus marcher pour avoir le droit d'aimer ce prince qui doit l'aimer sans qu'elle parle.
Tout à fait. Et il y a cette fameuse chanson d'Ursula qui dit « En plus, un gentleman a horreur de la conversation. Les hommes ont horreur de la conversation. Un gentleman fait tout pour l'éviter. » Et je pense qu'à 7 ans, quand j'ai vu ce film, sans évidemment aucune distance critique féministe, ben je l'ai simplement intégré. Et que je suis devenue alors une reine de glace, un peu hiératique, et je me disais que la valeur d'une fille venait de son mystère, de sa pudeur, et je pense que depuis, il y a vraiment un long travail qui a dû être fait pour me défaire de ce que j'avais intégré si jeune. Et donc, évidemment, j'ai adoré ce dessin animé quand j'étais petite, j'avais l'impression qu'Ariel, c'était moi, sauf que moi, j'étais promise à un destin de sirène. Enfin, c'était l'inverse d'elle, quoi. Je pensais que le peuple de la mer allait venir me chercher. Mais ouais, je pense que ça m'a bien pourri l'esprit, quoi. La Petite Sirène et les romans d'Alexandre Jardin, que je lisais quand j'étais ado, et qui ont complètement façonné mon univers romantique.
Mais quel drame, drame pour les femmes.
Ouais, tout à fait. Et le zèbre aussi.
Oh là là, terrible.
L'amour ne vaut qu'en étant pas vécu et qu'en n'étant pas authentique et enfin, mais ça me parlait, ça faisait vibrer quelque chose en moi. Et là encore, à 38 ans aujourd'hui, je fais un travail sur moi pour me défaire de ces idées inoculées par Alexandre Jardin.
Mais ça m'amène exactement à l'endroit où je voulais qu'on aille, parce que je voudrais qu'on parle à un moment d'adolescence. Donc on a grandi dans les années 80, enfin, et voilà, 90 pour l'adolescence toutes les deux. Et donc j'ai lu Ariane, et je sais que c'est du vrai, hein, la toile de fond que vous dépeignez correspond à votre adolescence. Ça ressemble beaucoup à la mienne. Par exemple, à un moment, il y a une boum, avec des filles qui dansent sur Torn de Natalia Imbruglia, avec un baggy taille basse et un t-shirt court à motif chinois. Bah, j'étais à cette boum, en fait. J'étais là. Et en fait, vous... Enfin, d'abord, qu'est-ce que vous gardez comme émotion de cette adolescence-là ? Parce qu'on est quoi ? On est en 95, quoi ? 94, 13 ?
Ouais. Ben moi, j'ai bien aimé mon adolescence, surtout la deuxième partie, à partir de 14-15 ans, parce que c'est là que j'ai découvert l'amour et la séduction, et que c'est devenu mon passe-temps favori, et que c'est là que je pouvais tester ma puissance, mon pouvoir sur les autres... Et pour moi, ça a été une révolution, quoi, une découverte. J'étais celle que personne ne regardait, que personne n'écoutait. Et puis tout d'un coup, j'étais objet de convoitise. Et c'était incroyable. C'était incroyable. Alors aujourd'hui, encore une fois, quand je regarde cette période de ma vie et ce que j'ai vécu et ce que je pensais, je me dis que j'ai laissé beaucoup trop de pouvoir aux autres, puisque c'est évidemment dans leurs yeux que je me définissais, et je me construisais pas en fonction de mes envies, mais en fonction de la manière dont je jouais habilement la partie avec les mecs. Je leur donnais ce qui, parce que c'est un jeu, hein. Enfin, voilà, c'est construit, la séduction. Il y a bien sûr des choses qui sont spontanées, mais comment différencier la culture de la séduction de la nature de la séduction? Mais, ouais. Je n'ai vécu que pour l'amour pendant bien trop longtemps, et ça laisse quand même un pouvoir de destruction beaucoup trop important dans les mains et le regard des hommes. Ouais.
Mais effectivement, moi je me suis reconnue dans cet aspect, donc déjà musical et vestimentaire, clairement, mais aussi dans cette obsession de plaire au mec. Vous rappelez les conseils drague qu'on recevait dans OK Podium, ouais. et tous ces magazines que je découpais religieusement. On n'avait pas Instagram à l'époque, en fait. Vous voyez ou pas ? On achetait des magazines, c'était des trucs en papier comme ça, et on les lisait, après on découpait, c'était grisant.
Ouais.
Mais dans ces magazines-là, en fait, la culture du viol
incroyable,
imbibée nos cerveau. Ouais. Et j'aimerais qu'on soit dans une chambre toutes les deux et pas devant un public pour vous confier ça, mais il y a un moment, le personnage d'Ariane fantasme sur du viol, enfin, c'est presque encore une enfant. Mm-hmm. Et je me souviens, adolescente, que c'était effectivement un fantasme ultime d'avoir des hommes qui prennent de force, enfin, et ça venait de toutes ces choses qu'on lisait, de comment on a réussi à se sortir de là.
Est-ce qu'on en est sorti?
Ben, je sais pas. Je sais pas, mais ça, enfin, je trouve que ce livre met vraiment le doigt sur quelque chose. Je sais pas à quel point ça s'est dissous aujourd'hui, mais qui est pas si lointain, où vraiment on éduquait les petites filles à devenir des objets sexuels.
Ouais. Je me souviens d'un courrier des lecteurs dans OK Podium, et c'était est-il vrai que le sexe de mon copain risque d'exploser si il a une érection et que je me refuse à lui? Bon, alors heureusement, le médecin, avec mille guillemets, qui répondait à la question, disait non, mais probablement pas. Mais qu'il laissait quand même planer le doute sur une éventuelle catastrophe qui pourrait quand même se produire si, t'es dans un lit avec un garçon, puis tout d'un coup tu refuses. Attention.
Et puis cette idée aussi que vous ramenez, enfin voilà, si tu couches pas régulièrement avec ton homme, il va te tromper avec une autre, enfin cette espèce de d'injonction à être un être sexuel désirable, à entretenir en permanence son physique, enfin c'est quand même c'était du lavage de cerveau, quoi.
Ouais, là c'est dans 20 ans, je pense qu'il y avait aussi comment ne pas être dégoûtante. Et ça nous expliquait comment il fallait se dérober au regard pour se moucher, surtout ne jamais renifler. Et donc devenir des êtres complètement éthérés et qui ne correspondent pas du tout à la réalité, quoi. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'écrire Ariane, c'était pour montrer les injonctions contradictoires qu'il y avait dans nos vies de jeunes filles. Et qu'au fond, on n'y correspondait quand même pas vraiment, quoi. On essayait d'y correspondre, mais les personnages d'Ariane... il est souvent question de leur odeur, quoi, de leur odeur de transpiration, de leur maquillage qui coule, ce genre de choses. J'avais envie de ramener du concret et des corps concrets qui peuvent être sales et ouais, malodorants. Quoi. Mmh.
Mais il y a quand même toujours la menace du viol qui plane sur les personnages aussi de ce livre. Enfin, les personnages masculins sont gauches, un peu rustres, un peu cons. Mais n'empêche qu'ils sont toujours aussi une forme de menace, qu'ils soient adultes, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient...
Oui, mais il y a aussi une scène qui montre un homme adulte qui va à un rendez-vous avec deux jeunes filles de 13 ans et ça, moi, ça m'arrivait souvent. Alors, je ne donnais pas souvent des rendez-vous à des hommes de 50 ans quand j'avais 13 ans, mais je faisais souvent des canulars, en fait. Où je me faisais passer pour quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Et donc, il est souvent arrivé que je me fasse draguer par des hommes de 50 ans quand j'avais 13 ans. Alors, aujourd'hui, avec notre regard d'aujourd'hui, on trouve ça complètement dingo, mais à l'époque, ça faisait partie des choses quotidiennes, qu'on vivait quotidiennement. On se foutait un peu de leur gueule, mais on ne se rendait pas bien compte qu'en fait, il y a quelque chose de terriblement tordu qui se jouait là-dedans.
Et quand on pense que ça, c'était il y a à peine 20 ans, faut pas s'étonner qu'on donne des Césars à des violeurs de filles de 13 ans, ça va, c'est sa vie privée quand même, quoi.
Et puis à 13 ans, on est déjà femme.
Mais oui, voilà. Myriam Leroy, vous êtes devenue femme ou vous êtes née femme?
Ah non, je... non, je crois que je le suis devenue, et en fait, c'est même très récemment, alors je réponds pas tout à fait à votre question, mais... que je me définis, enfin que j'accepte et même que je me force à dire le mot femme pour me désigner, parce que jusqu'il y a peu je disais fille et je trouvais que femme c'était dégoûtant, en fait. Je savais pas, et ça charriait un truc.
Un peu comme écrivaine, j'ai l'impression, non?
Non, écrivaine c'est justement parce que je trouve ça trop glamour. Et femme, je trouve que c'est, enfin je trouvais que c'était, je sais pas, vieux, moche, que c'était un vilain label, que c'était un vilain mot, j'aimais pas sa sonorité, femme. Et donc je me définissais comme fille. Mais à un moment donné, ça fait de nous des mineurs éternels et des subalternes éternels, quoi, de se définir comme fille. On va pas défier un mec de 50 ans, on va pas dire garçon. Donc voilà, ça fait 2-3 ans que je dis je suis une femme, nous sommes des femmes. Mais c'est pas facile, je dois me forcer. Je sais pas très bien. Peut-être il y a un côté, parce que je suis comme tout le monde infusée de misogynie ordinaire, et donc dans cet inconscient femme, il y avait un petit côté déshonorant et pas cool. Que fille, c'était adolescent, c'était donc désirable et donc c'était cool.
Mais il y a une charge, oui, une charge négative autour de ce mot. Enfin, quand on traite un homme de femme, c'est une insulte, par exemple.
Oui, fais pas ta femme. Bah, fais pas ta fille aussi, c'est une insulte.
Fais pas ta fille, c'est pas top non plus, ouais. Mais c'est intéressant. Et vous rêviez de quoi quand vous êtes sortie de votre école de journalisme à 23 ans ? Vous voyez comment votre avenir ?
Qu'est-ce que je voyais ? Ben, je pensais qu'on m'attendait, que les rédactions m'attendaient et que... Et en fait, pas du tout. J'ai cru que j'allais très vite travailler. Je pensais que ça allait être chouette, facile, drôle, vivifiant, nomade comme métier. J'avais été une bonne étudiante, donc je ne voyais pas de raison qu'on ne m'attende pas triomphalement sur le marché de l'emploi. Et en fait, bah non. Donc j'ai été pigiste un peu partout. On voulait bien m'accueillir. J'ai fait tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, payé plus qu'au lance-pierre, quoi, pendant très 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 longtemps. Donc à un moment donné, ce dont je rêvais en sortant de l'école de journalisme, c'était juste de travailler pour un salaire décent et d'être respectée dans ce que je faisais. Ouais, j'avais vraiment. On est passé de Los Angeles, New York, glamour à juste travailler pour plus que 11 centimes d'euros la ligne.
Et dans la série de choses très différentes que vous avez faites effectivement pendant plusieurs années, il y a un web documentaire sur un centre de planning familial que vous avez réalisé en 2011. Je me suis dit, en fait, le web docu en 2011, c'était un peu le podcast, en fait.
Oui, c'était
J'espère
hyper
que
cool.
Le podcast n'aura pas le même destin que le web docu. Mais je me suis demandé, qu'est-ce qui vous avait donné envie de tourner ce documentaire qui est en fait sur un sujet très engagé, sur l'interruption volontaire de grossesse, avec un angle assez militant, en fait.
En fait, j'avais envie de faire un web documentaire parce que c'était le gadget à la mode à l'époque et ça nous semblait hyper révolutionnaire. On avait l'impression qu'on allait pouvoir tout dire. Et puis, c'était aussi un format qui attirait beaucoup les jeunes journalistes qui n'étaient pas salariés dans des rédactions. Enfin, en fait, c'est un peu la même salade que le podcast. Ça permettait aux filles, aux femmes aussi, de pouvoir proposer des choses qu'on leur refusait dans les médias classiques. Donc, j'avais envie de faire un web docu. Et puis, j'avais envie de faire un web docu sur l'IVG. Je ne sais pas si ça correspondait à un anniversaire d'une loi, à mon avis, en Belgique, quelque chose du style, mais c'est un sujet qui m'intéressait vachement à l'époque, et puis j'ai trouvé le bon endroit pour le faire, un centre de planning familial à Liège, hyper militant, hyper engagé, qui m'a ouvert ses portes pendant quasi un an, et c'était formidable. Alors le web documentaire, est-ce qu'il est ? D'ailleurs, je ne suis même pas sûre qu'il est encore disponible.
Ah, si, ouais, j'ai pu le voir.
Ah, oui.
Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un web documentaire, en fait. C'est... En fait, il y a des photos et il y a des gens sur la photo et on peut cliquer sur un genre et là on part dans une direction à cette personne qui parle et après on peut choisir le sujet. Enfin, c'est comme un espèce de documentaire dont vous êtes le héros.
Oui, c'est ça. Enfin, on fait son propre chemin. La narration est éclatée et on peut aller picorer un peu tout ce qu'on veut. Et non, c'était beau, c'était gai de faire ça.
Mais en tout cas, il est encore en ligne.
Bon, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Je ne suis pas sûre. C'était très maladroit, je pense, et pas très pro.
Et ensuite, vous avez tenu une chronique qui a fait le buzz pendant plusieurs années en Belgique et qui s'appelait « Myriam Leroy n'aime pas ». Alors déjà, à l'époque, je dis déjà parce que je ne l'ai pas encore dit, en fait, c'est un peu un spoiler, mais le thème des yeux rouges, c'est le cyberharcèlement, et ça vient d'une expérience personnelle. Et donc déjà, à ce moment-là, vous vous en prenez quand même plein la gueule quotidiennement. Parce que le principe, c'est de dire j'aime pas Madonna, j'aime pas les tatouages, j'aime pas l'iPhone. Donc du coup, forcément, dans l'heure qui suit, les gens qui aiment Madonna, les tatouages et l'iPhone viennent vous insulter.
Oui.
Alors j'ai un peu vérifié, l'idée venait de vous.
Oui.
Donc je me suis demandé, est-ce que c'était pas un peu chercher le bâton pour se faire battre, du coup ?
Oui, bah oui.
Pourquoi ? C'est incroyable, c'était dans une posture aussi espèce de... d'arrogante de service, ou je ne sais pas ce que vous essayez d'incarner.
Alors, je ne ferai plus du tout ça aujourd'hui, et je trouve que c'est des chroniques qui ont extrêmement vieilli, et qui appartiennent à une époque, et qui appartiennent à une ligne éditoriale d'une chaîne radio qui était une chaîne jeune.
Moi, je les ai lues sur papier, et je ne les ai pas trouvées si mal vieillies que ça. Je ne les ai pas entendues à la radio, mais...
Enfin, parce que c'est devenu un bouquin aussi, un recueil de chroniques, et ils doivent tous aller au pilon pour moi, ces bouquins, ils n'auraient jamais dû être imprimés. Non, si. Non, vraiment. Alors, pourquoi j'ai proposé ça ? Bah, le but au départ, c'était dans une émission, on m'avait demandé de proposer une chronique culturelle et j'avais envie d'évoquer la hype du moment,
sous un angle un peu rigolo, et donc souvent c'était même des choses que j'appréciais plutôt, mais j'inventais que j'aimais pas. Enfin, on peut, si on est un peu cohérent, on peut tout désinguer ou tout défendre. Donc, je me suis rendu compte assez vite que les gens, ça les faisait rire, alors que c'était pas tellement le but à la base. Ça m'a fort étonnée. Et quand on m'insultait à cette époque, eh ben j'aimais bien.
Je savais que je mettrais le doigt sur un truc.
Il y avait quelque chose qui me faisait un peu vibrer, pas aussi parce que c'était assez équilibré. Il y avait autant de gens qui m'insultaient que de gens qui disaient qu'ils avaient trouvé ça rigolo. Mais j'avais l'impression d'exister, mais j'étais encore très jeune dans ma tête. Hein. Et puis c'était encore des insultes relativement gentilles. C'était pas ce que j'ai pu essuyer par la suite. Donc il y avait un côté où je me positionne un peu au-dessus de tout le monde. Les gens qui m'insultent, c'est un peu tous des cons, ils n'ont rien compris. Enfin, il y avait ça me valorisait en fait de me faire insulter tant que c'était petit, parce que c'était encore une époque où on parlait à son public. Enfin, l'humour, parce que c'était de l'humour aussi, hein, pouvait respecter le principe de connivence. Et donc les gens qui faisaient pas partie de la blague en fait ne venaient pas t'écouter. Et puis en fait Internet était déjà bien présent, mais les choses sont devenues beaucoup plus virales et ont circulé beaucoup plus, ce qui fait que quand tu faisais de l'humour, ben quelqu'un qui ne partage pas du tout les mêmes codes que toi pouvait y accéder, être heurté, être très en colère et te répondre.
Mais c'est marrant en vous écoutant parler de cette espèce d'émotion que vous aviez d'exister en entendant les gens vous insulter. Ça me rappelle les passages dans Ryan où les jeunes femmes sont clairement victimes de harcèlement de rue, mais elles se sentent cool. Enfin, je sais pas s'il y a une façon de relier les deux aussi dans la manière dont on est éduqué en tant que femme à finalement pouvoir attirer l'attention d'une façon négative. Enfin, je sais pas, c'est peut-être mieux que je sais pas ce que j'essaie de.
Alors j'ai jamais évidemment réfléchi à ce lien, mais c'est vrai qu'il est pertinent parce que susciter des réactions un peu de prédation, c'est aussi être puissant peut-être. Enfin, en tout cas dans certains. Ouais, je sais pas, je réfléchis tout, j'ai l'impression que c'est n'importe quoi ce que je dis.
En tout cas, je pense qu'on est sociabilisé comme ça, c'est-à-dire que voilà, enfin, je pense que dans l'esprit de Catherine Deneuve et de Fanny Ardant, se faire siffler dans la rue, c'est super en fait. Bah attendez, tu vas pas te plaindre, ça veut dire que qu'on te voit. Incroyable, on te voit. Te plains pas.
Il y a un peu de ça quand même. Moi pendant longtemps, quand je m'étais pas fait emmerder dans la rue et que j'étais sortie de chez moi et qu'il s'était rien passé, j'étais déprimée quoi en rentrant à la maison, parce que je me dis bah voilà, aujourd'hui je devais être moche, c'est fini, je suis finie.
Et d'ailleurs en parlant d'être vue, vous avez fait un bref passage à la télévision sur Canal+, où vous aviez une chronique dans la nouvelle édition. Vous parliez donc 1:30 par jour dans une émission d'une heure
par semaine.
Je sais ce que c'est. Je compatis, je voulais juste vous dire ça.
Merci.
C'est dur. Enfin, c'est la télévision, qu'est-ce qu'on peut imaginer de pire comme expérience sexiste en tant que journaliste, en tout cas?
Non, rien. Rien. Mais qu'est-ce qu'on peut imaginer de pire comme expérience de court, à part l'expérience de l'abattoir, quand on est une vache Je sais pas. Surtout pour être annoncé, sortir du noir, rentrer sur un plateau, s'asseoir, faire une chronique pendant 1:32 en lisant un prompteur, avec le regard aussi à l'aise qu'un chat pris dans les phares d'une voiture, espérer que les gens rient, ce qu'ils ne font pas. Et puis s'en aller piteusement et reprendre son train et puis découvrir le lendemain les insultes sur les réseaux sociaux. Non mais c'est affreux quoi. Mais les gens me disaient non mais c'est une super vitrine pour toi. Sauf que moi j'avais rien à vendre, c'était une vitrine qui donnait sur rien, puisque je suis pas humoriste, je suis pas comédienne, j'avais pas de salle à remplir, donc ce que j'avais à proposer c'était ce que j'avais à vendre, donc je m'en foutais complètement de la vitrine.
Mais on me le faisait aussi le coup de la vitrine, quand on y pense c'est un mot en fait qui est très très chargé quoi.
Oui,
c'est-à-dire que en fait,
c'est le pipe chaud quoi.
C'est voilà. Ouais. C'est intéressant. Mais vous avez peut-être aussi essayé de vous servir de cette vitrine comme un endroit où passer des messages politiques, parce que c'était assez engagé. Du coup, vos billets, j'en ai pas vu 36, j'en ai vu en l'occurrence surtout un.
Ouais.
Mais c'était un espace que vous aviez envie d'investir pour passer des idées.
Mais quand Canal+ m'a engagée, ils m'ont dit que je pouvais faire ce que je voulais, que je pouvais proposer de n'importe
quelle chronique, et ça n'a pas été le cas. En fait, ils m'ont dit non, mais va plutôt dire du mal, c'était bien là, ce que tu faisais à la radio quand tu disais que t'aimais pas machin et tout, c'est très bien. Moi, j'avais plus très envie, je trouvais que le trend était plus tellement à ça, je trouve qu'on l'avait beaucoup fait, tapé, enfin, c'était, je trouvais que ça s'était fort ringardisé. Et puis, en effet, il y a une fois où je me suis dit, bah, tiens, je vais profiter de ces deux minutes pour raconter un truc qui m'intéresse vraiment et pour porter un message vraiment politique. Et ouais, je pense que c'est bien mal m'en a pris.
Bah, c'est ambitieux, en fait. Vous avez décidé de défoncer Dieudonné, quoi.
Ouais.
Ouais. J'ai regardé la chronique. Ouais. Franchement, vous étiez bien.
C'est pas
vous n'avez
meilleure,
pas hein. du tout bafouillé, bien non. les yeux, personne ne vous a coupé jusqu'au bout. Enfin, on sentait que vous l'aviez vraiment travaillé, votre chronique a été bien. Mais la vidéo sur laquelle je suis tombée sur Dailymotion, je crois que ça existe ouais. encore, Dailymotion d'ailleurs. Bref. Ah, ouais. Et derrière, il y avait la réponse de l'intéressé,
ouais.
dont j'ai déjà prononcé le mot une fois de trop,
oui.
donc je m'arrête. Mais
oui, oui.
La violence de cette vidéo face caméra, là
oui.
Comment on peut survivre à un message tellement violent qui vous est adressé ? Enfin, il y a tout dedans. C'est-à-dire que ça commence avec le ton très méprisable, enfin, ouais. méprisant. Voilà, ils m'ont envoyé la stagiaire, mais elle est nulle, fait des efforts pour faire des
si
likes, etc.
Si t'as besoin de parler, parle à ta coiffeuse.
Voilà, ouais, fait un métier, machin. Mais la fin.
La fin, ouais.
C'est carrément un viol, enfin, un appel au viol, enfin, voilà, on vous traite de pute, enfin, c'est.
Ouais.
Je sais pas, moi je suis hyper choquée. Je pense que j'aurais pas réussi à survivre à quelque chose d'une telle violence et je me demande comment vous avez, qu'est-ce que vous avez constitué à l'époque comme défense pour traverser ça et surtout le raid sur les réseaux sociaux qui a suivi, c'est-à-dire qu'à la suite de ça, vous êtes reçu des milliers et des milliers d'appels au viol parce qu'évidemment ce gars-là.
Oui. Mais disons que la réponse de cet individu, pour moi, c'était vraiment pas du tout la pire chose à vivre parce que quelque part, c'est de bonne guerre. Je le clash, il me répond, enfin, je m'y attendais. Et je m'attendais à ce que ce soit fait d'une manière aussi misogyne, puisque c'est la tradition chez lui. Le raid, ça a été hyper dur à vivre. Ça a été terrible, en fait. Mais c'est vraiment des années après que j'ai compris pourquoi c'était si terrible et tout ce que ça avait ratiboisé chez moi. Mais ce que j'ai trouvé le plus dur, en fait, c'était la manière dont la presse belge s'est emparée de cette histoire pour me clasher. Parce que j'ai été présentée, bah, il suffit de taper sur Google, hein, comme responsable des menaces de viol et de mort qui m'étaient adressées. C'était raconté en termes de l'arroseuse arrosée. Des journaux ont dit que je m'étais grillée. Et puis ça a beaucoup feuilletonné. Myriam Leroy disparaît. Et puis alors, non, j'avais pas été kidnappée. Tu devais cliquer dans l'article pour savoir que j'avais disparu des réseaux sociaux. Ce qui n'était pas vrai, en plus, j'y étais, mais ça a été repris en boucle sans être vérifié. Enfin, il y avait une espèce de gourmandise avec laquelle ma profession a feuilletonné sur cette histoire comme si c'était une info amusante, people, sans jamais, pas une fois, relever l'incroyable misogynie qui était à l'œuvre là-dedans. Jamais. Ça a toujours été, elle l'a bien cherché. Et ça, pour moi, ça a été vraiment le dernier clou de mon cercueil. Et ça, c'est quelque chose qui me fait encore souffrir aujourd'hui.
Vous avez traversé une période de dépression suite à cette attaque-là. Quand vous parlez de clous sur votre cercueil, c'est quoi en fait? Il s'est passé quoi?
Mais je pense que j'ai traversé une période de mort. En fait, je ne sais même pas si dépression est le terme adéquat parce que, en fait, dans Les yeux rouges, mon deuxième bouquin, il y a la narratrice qui s'engage dans une errance médicale parce qu'il lui arrive, toute une série de bricoles d'ennuis de santé. Et à un moment donné, il y a son kinésio qui lui dit que même l'amplitude de ses mouvements est tellement réduite. Qu'elle n'excède pas les dimensions d'un cercueil, c'est comme si on l'avait enterrée vivante. Et ça, c'est exactement comment je me vivais, comment je vivais cette période. Donc, voilà, madame.
Non, mais surtout à l'époque, on est en 2013, et vous dites les journalistes, les médias n'avaient aucune conscience du caractère systémique et misogyne de ce que je pouvais traverser. Mais en fait, à l'époque, c'était très peu dit, très peu nommé. Enfin, la compréhension de ce phénomène en est récente, et vous avez d'ailleurs contribué beaucoup
avec
votre livre. Ouais, voilà, c'est ça. Et vous-même, à l'époque, vous le traversiez en ayant cette culpabilité-là vis-à-vis de vous-même ou en ayant déjà conscience de l'injustice de ce que vous viviez ?
Mais comme c'était vécu dans une très grande solitude, sans jamais que la dimension politique de ces attaques soit soulignée par qui que ce soit, à part par moi, parce que je voyais quand même que c'était que des menaces et des insultes à caractère génital. Il y a quand même un moment où tu te dis... Enfin, tu te remets quand même fort en question à un moment donné, même si t'es solide, même si j'étais, enfin, vous l'avez dit, insultée pendant longtemps sans que ça me fasse grand chose quand je faisais cette chronique radio. Myriam Leroy n'aime pas. Là, en fait, le nombre est tellement, tellement important que et c'est tout le temps les mêmes mots, les mêmes images qui reviennent que ouais, tu te dis que t'as peut-être un problème, que t'es peut-être une merde, que tu dois peut-être disparaître tel qu'on te le dit. Un jour ou l'autre, le message finit quand même par percuter dans ton cerveau, même si t'es résistante, parce que moi je crois que je suis quand même très résistante. Ouais, le nombre à un moment donné fait loi, quoi.
Enfin, il y a quand même des chiffres qui existent, hein. On sait que 73% des femmes sont victimes de cyberharcèlement, que les femmes journalistes sont encore plus visées, les femmes noires ou handicapées ou lesbiennes sont encore plus visées. Enfin voilà, c'est quand même une violence misogyne et c'est quelque chose qu'on est tout juste en train de commencer à analyser, à comprendre. Et c'est quelque chose qui ressemble en fait beaucoup au viol, encore une fois. Ouais. Parce qu'il y a aussi cette chose qui ressort beaucoup dans Les Yeux Rouges, cette idée que, en fait, on n'est pas cru, quoi.
Non.
Comme quand on dit qu'on a été victime d'agression sexuelle, comme personne ne nous croit, finalement on va finir par plus le dire.
Mm-hmm. Et quand on est cru, par miracle, c'est toujours minimisé. Et quand t'es harcelé, on te dit que tu es harcelé sur Internet. En fait, c'est pas vrai. T'es pas harcelé sur Internet, t'es harcelé via Internet. Internet, c'est le moyen. T'es harcelé tout court, t'es harcelé dans ton corps, t'es harcelé dans ta vie. Mais on te dit... qu'est-ce que tu t'en fous? T'as qu'à pas aller voir. C'est que des cons. C'est que Internet. Comme si Internet, c'était une sorte de gadget impalpable, évanescent. Ben non, Internet, c'est la vraie vie. Ça fait partie de la vie. On fait toujours ce distinguo Internet, vraie vie. Non, Internet, c'est la vraie vie. Il y a la vie physique et il y a la vie qui se déroule à travers les écrans. Mais c'est la vie, quoi. Et on est encore toujours aujourd'hui à minimiser la souffrance des personnes qui sont harcelées via les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment la double peine. Donc déjà tu souffres et en plus on dit que t'es con de souffrir. Donc
ouais, t'as qu'à pas regarder. Ça c'est terrible. Enfin j'ai pas vécu des choses comparables à ce que vous avez vécu, mais j'ai eu moi aussi mes petits épisodes de cyberharcèlement parce que j'ai dit des trucs que je pensais tout haut. Donc forcément je l'avais cherché un peu, faut dire.
Bah oui.
Et c'est terrible parce qu'on a beau nous dire t'as qu'à pas regarder. Mais en fait, on sait. Il y a une espèce de sensation de nuage qui nous poursuit, même si on ne regarde pas. On sait que ça continue et que quand on va rouvrir, ça va nous jaillir à la figure. C'est très...
Et puis, il y a toujours bien quelqu'un qui va t'envoyer des captures d'écran.
Ouais. Ou le petit message. C'est vraiment dégueulasse ce qu'il vient de dire. Ouais. Ouais. Tu vois, je ne regardais pas du coup. Merci, du coup, je vais aller voir.
Ouais, voilà.
Ouais. Ouais. Plus cette idée, effectivement, qu'on retrouve dans le viol, que c'est un peu ta faute, quoi.
Bah oui, pourquoi tu l'ouvres sur Internet? Pourquoi tu ouvres ta gueule? C'est ce qu'on dit à toutes les filles qui ont subi un raid suite à un tweet ou une déclaration. Mais elle est quand même clivante. C'est exactement la même logique que dire, qu'est-ce qu'elle foutait dans cette ruelle sombre à cette heure-là,
habillée
dans cette
comme
tenue,
ça.
Pourquoi est-ce qu'elle a bu Ouais, c'est du victim blaming. Le harcèlement via Internet, c'est un des visages parmi mille visages du discours misogyne.
On vient de mettre un pied dans votre œuvre littéraire et puis je voulais qu'on en parle, qu'on passe du temps à en parler parce que, je reviens un peu sur ce que je disais au début, mais vous dites régulièrement, je suis un peu une loseuse, ma vie c'est une somme de ratés, c'est un espèce de petit refrain qui revient souvent à votre sujet. N'empêche que, ouais, vous avez essayé beaucoup de choses, mais quand vous êtes dit je vais devenir écrivaine, ça a marché tout de suite. C'était quoi en fait? Vous avez trouvé votre vocation d'un seul coup, vous avez l'impression?
Mais j'ai toujours voulu écrire. J'ai toujours voulu écrire des romans, mais je n'avais pas le temps ou je ne me donnais pas le temps. Enfin, en tant que journaliste, pigiste, j'avais pendant très longtemps j'ai eu un boulot de nuit plus un boulot de jour. Et c'était pas possible. J'avais pas d'espace de cerveau disponible pour la création. Et puis j'ai commencé à quand même gagner ma vie de manière plus confortable, à pouvoir abandonner des boulots insensés que je faisais à des horaires insensés, avoir un peu plus de temps, avoir des week-ends, avoir la possibilité d'avoir des vacances et plusieurs jours de suite. Et
C'est mieux que le confort matériel, en fait.
Ouais.
On est en plein Virginia Woolf. Hein, ouais, et vous fallait votre chambre à vous. Exactement. Pour avoir l'espace d'écrire.
J'habitais plus en coloc, j'habitais seule, j'avais mon espace, j'avais du silence, on me foutait la paix. Et puis j'allais avoir 35 ans et je me suis mis cette deadline en me disant, si à 35 ans, alors que depuis que je suis petite, je rêve d'écrire un roman, je ne l'ai toujours pas fait, bah, c'est que je ne le ferai jamais. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça, mais ça a été une bonne carotte et un bon bâton. Et le livre est sorti un mois avant mes 35 ans.
Voilà. Well done. Alors, vous avez choisi un style très particulier pour vous lancer en littérature, c'est l'autofiction. C'est un choix que vous revendiquez, hein, vous définissez votre littérature comme telle. Et je trouve ça intéressant d'un point de vue féministe. Je trouve ça d'autant plus intéressant en regardant votre parcours et tout ce qu'on vient de se raconter, parce que finalement, l'autofiction, c'est une façon de se dire soi-même. C'est une façon de choisir les mots qu'on utilise pour parler de soi. Et je trouve que quand on a été beaucoup dite de l'extérieur, comme vous l'avez été, ça peut être une forme de...
Oui, reprendre le contrôle, reprendre le pouvoir. Et puis Virginia Woolf, justement, puisqu'on parlait d'elle, je ne sais plus quelle est la phrase exacte, mais elle disait un truc du style « est considérée comme féministe toute femme qui dit la vérité à propos de sa vie ». Et voilà, je crois que tout est dit. Ouais. Et que l'autofiction peut aussi servir à ça. Mais paradoxalement, on dit souvent que l'autofiction, c'est quelque chose de très féminin, comme si c'était donc une sorte d'occupation de bonne femme, de dame patronesse, et une manière de minimiser en fait l'acte artistique à l'œuvre. Or, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de mecs qui font de l'autofiction, oui. Si pas plus.
Moi, c'est un peu un sport national chez les hommes mal blancs hétérosexuels.
Ouais, ouais. Parce que moi, en me lançant dans l'autofiction, j'ai même l'impression que c'est transgressif de le faire et pas « Ah oui, il raconte ses petits problèmes, c'est comme se confier à une copine. » Non, c'est pas ça, c'est pas ça du tout.
Après, j'ai aussi toujours eu l'impression que les femmes étaient un peu obligées de commencer. J'ai remarqué que souvent, les œuvres des femmes, les premières œuvres, les films, parlent d'elles parce qu'il y a un besoin de compensation aussi. Il y en a si peu des récits de femmes à la première personne que je crois qu'il y a vraiment une nécessité de les mettre là pour qu'ils soient là, quoi.
Ouais, et dans ma démarche à moi, par rapport à mon premier roman qui raconte donc une dispute entre deux jeunes adolescentes, ça venait reparer un manque aussi en tant que lectrice de littérature qui présentait les adolescentes comme je crois qu'elles sont. Parce que si tu lis des bouquins d'auteurs qui parlent de l'adolescence, c'est souvent des adolescents mâles qui sont dépeints. Et quand il y a une fille qui passe dans le champ de vision, c'est toujours une espèce de libellule, éthérée, une petite fille, ouais, très mystérieuse, qui fait des choses incompréhensibles, qui a un peu droit de vie et de mort sur les garçons, qui prend, qui jette, qui dispose en fait des garçons. Or, mon souvenir de mon adolescence à moi, c'était que je galérais aussi avec les mecs qui me trouvaient moche. En tout cas, dans la première partie de l'adolescence, moi, j'étais considérée comme un rebut, plus personne ne voulait de moi. Et j'étais pas cette jolie chose éthérée sur un piédestal qu'on regardait d'en bas. Et le but, c'était de dépeindre des personnages de filles adolescentes telles que je crois qu'elles existent aussi.
Et sans stéréotype, parce que pour le coup, l'adolescente qui est un peu la belle, qui attire tous les regards, la lumineuse, c'est pas une blonde diaphane, c'est une fille d'origine, ouais, on pense indienne, qui a été adoptée par ses parents, qui a les cheveux noirs, qui a la peau sombre. Et je trouve qu'il y a effectivement un travail de création en fait d'archétype complètement renouvelé qui fait vraiment beaucoup de bien dans ce livre.
Merci.
Alors moi j'ai une petite théorie,
ouais.
J'aime bien avoir des petites théories. Dans ce livre en fait, bah, vous l'avez dit, c'est une amitié toxique entre deux adolescentes, mais moi je l'ai aussi vu comme une sorte de vie d'Adèle qui, au lieu de tourner à l'histoire d'amour, tourne au drame. D'ailleurs dans ce livre, les adolescentes emploient de façon récurrente le mot gouine ou le mot lesbienne comme une sorte d'insulte suprême, alors qu'en réalité il y a énormément de sensualité, il y a énormément d'amour, de passion entre elles. Et je me suis demandé si en filigrane dans ce bouquin n'avait pas en fait le récit de la contrainte à l'hétérosexualité.
Ah ouais.
Peut-être inconsciemment, hein, je ne sais pas.
Ouais, ouais, enfin, c'est vrai.
Je ne sais pas, il y a clairement du désir entre elles, non?
Ouais. Mais je ne sais pas si c'est ce que toutes les jeunes filles vivent. ces amitiés amoureuses tellement intenses. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et on sait pas très bien ce que c'est, ce qu'il y a du désir, c'est pas sûr, mais c'est vrai qu'il y a de la, sensualité, il y a une proximité incroyable. Et puis, c'était l'époque avant les réseaux sociaux, donc quand on se parlait, c'était du corps à corps, c'était quasi du pot à pot. Et c'est vrai que parallèlement à ça, Gwyn était une insulte, elle s'insulte beaucoup, mais s'insulter, c'est entre elles. Elle se traite de salope, de pute, c'est une marque d'affection. Pas mal de lecteurs m'ont dit, ouais, c'est très vulgaire quand même, tous ces mots crus, toutes ces insultes, toutes ces invectives qu'elle s'envoie, ça correspond à rien de la réalité. Mais je pense que c'est assez générationnel parce que ça correspond très fort à ma réalité. Moi encore aujourd'hui avec mes copines, c'est ça va salope, ça va catin, ça va pupute, et c'est que de l'amour. Et j'ai lu un papier dans Le Monde qui expliquait justement que les filles qui ont grandi dans les années 90-90 s'insultaient beaucoup et utilisaient beaucoup de mots crus et de mots vulgaires parce que c'était une manière de se réapproprier un lexique considéré comme masculin et donc de prendre le pouvoir aussi.
Parle comme un charretier, même mes gosses m'engueulent, soit maman, mais t'arrêtes de dire des gros mots un peu, ouais. Je les choque.
Oui, oui.
C'est générationnel en fait.
Apparemment, parce que les générations d'avant fait pas ça, et celles d'après non plus, parce qu'elle en a peut-être pas besoin, mais nous, on le fait beaucoup. On est très vulgaires entre nous.
Mais à la fin, je persiste quand même sur mon histoire. À la fin, quand elle dépasse l'amitié, quand la rupture est consommée et qu'elle la hait, la seule insulte qui reste, c'est lesbienne. Elle écrit dans son journal intime.
Ouais, c'est une sale lesbienne.
C'est une sale lesbienne. Et je sais pas, j'ai peut-être trop écouté des pentes sur cette histoire qu'en fait, finalement, les femmes pourraient tout à fait se laisser porter par l'amitié tendre qui les porte parfois vers leurs amis plutôt que de s'obstiner à trouver un mec qui va de toute manière leur rendre la vie impossible ou les violer. Pardon. Et je me suis dit que peut-être que dans ce roman-là, il y avait le récit de ça, mais pas forcément conscient. Mais en tout cas, moi, ça m'a aussi permis d'avoir une relecture même de mes amitiés adolescentes.
Oui, mais elle dit, ça, lesbienne, comme je l'ai sans doute dit aussi à 12-13 ans, parce qu'elle a peur d'être lesbienne, donc dire sale lesbienne, bah c'est une manière de mettre une distance parce que, mon Dieu, enfin, déjà que t'es une fille, mais en plus, si t'es lesbienne dans la société dans laquelle on vit, non, enfin, ça pouvait être perçu comme un sceau d'infamie, donc insulter quelqu'un de sale lesbienne, c'était une manière de se mettre au-dessus, quoi. Non, ça ne passera pas par moi.
Dans Les Yeux Rouges, moi, ce qui m'a touchée, c'est la technique narrative, c'est-à-dire que tout est au discours rapporté. L'héroïne ne dit jamais « je ». Et en fait, elle est complètement dite. Et je trouve que c'est vraiment un choix intéressant parce qu'au final, il ne reste plus rien de son intériorité. Elle est complètement vidée de sa propre personnalité, de sa propre identité. Et au final, elle est silenciée. C'est-à-dire qu'on a 200, 300 pages qui parlent d'elle sans qu'on n'entende jamais sa voix. Et je trouve que c'est une magnifique métaphore de ce qui se passe dans ces mécanismes-là, ces mécanismes de silenciation.
Oui, mais c'est quand j'ai trouvé cette astuce narrative, c'est là que j'ai pu écrire ce livre que je portais en moi depuis longtemps, puisque le harcèlement fait partie de mon existence depuis longtemps. Et comme ça a toujours été minimisé, et comme j'avais jamais entendu un discours qui me semblait pertinent sur la question, je m'étais dit que c'était à moi d'écrire quelque chose là-dessus un jour ou l'autre. Et j'ai essayé pendant des années d'écrire ce bouquin en je, en tu, en il, qui serait le narrateur, ce serait le bourreau, ce serait la victime, oui mais comment. Et puis j'ai trouvé cette manière de placer donc la narratrice hors champ et de la laisser se faire définir par le discours des autres à un point où elle, c'est un spectre, elle est complètement absente à elle-même, elle a juste métabolisé ce qu'on disait d'elle et puis elle le régurgite. Et cette astuce narrative qui apparemment a été fort utilisée par Aragon, ce que j'ignorais.
Ah bon ? Ouais, c'est intéressant.
S'appelle le discours indirect libre et ça a tout rendu possible dans le bouquin, et ça a rendu possible ce que j'espérais faire, ce que je voulais faire, c'est-à-dire de proposer une expérience immersive, oppressante au lecteur qui se sent étranglé, lui aussi, parce que j'avais envie de lui transmettre ce que moi j'avais ressenti et ce que moi je ressentais, c'est-à-dire un sumo assis sur ma cage thoracique en permanence et une sorte de cauchemar éveillé où tu veux crier, tu veux dire quelque chose, mais en fait, il n'y a aucun son qui sort de ta bouche. Et c'est, ouais, ce dispositif narratif a rendu possible tout ce que je voulais transmettre dans le livre. Donc, je ne sais pas comment l'idée est arrivée, mais quand elle est arrivée, alléluia.
Et donc, ce livre-là, vous l'avez porté pendant 4-5 ans, c'est ça, après l'histoire ouais. Dont on a parlé tout à l'heure ?
Non, mais même avant, en fait. Parce qu'il y avait... j'avais déjà des emmerdes avant. et j'essayais déjà de m'en ouvrir auprès de mes proches, de mon entourage. Et même avec la meilleure volonté du monde, c'était pas compris. Et donc, écrire me permettait de dire déjà, sans être interrompue, jusqu'au bout, ce que j'avais à dire. Mais oui, donc j'ai réfléchi à ce livre, j'ai lancé des débuts de manuscrits pendant des années, et puis je l'ai rangé dans un tiroir parce que ça me semblait pas mal, mais pas ça qu'il fallait faire. Puis tout d'un coup, t'as une intuition, tu sais pas d'où elle sort, mais elle jaillit, et puis tu dis, mais oui, c'est exactement ça que je dois faire.
Et on sent quand c'est le bon. J'aime bien, enfin, je fais un petit crochet par ce que vous venez de dire, quand vous dites jusqu'au bout. J'adore parce que les fins de vos livres, à chaque fois, enfin, dans Ariane et dans Les Yeux Rouges, on sent que vous mettez jusqu'à la dernière goutte de ce qu'il y a. Enfin, parfois, il y a à chaque fois 5-10 pages qui sont un peu différentes du reste du texte, mais comme si vous étiez en train d'essorer.
Oui.
Mais je trouve ça génial, je trouve ça puissant parce que je vous sens derrière, en fait. Je sens l'écrivaine derrière quand je vois ces pages-là.
Oui, j'arrête d'écrire quand j'ai plus rien à dire, mais c'est vrai que je presse jusqu'à la dernière goutte. Mm-hmm. Ouais. Et puis j'aime bien, en tant que lectrice, j'aime pas trop les fins flottantes, les fins où tu te dis « Oh merde, il n'y a plus rien derrière, quoi ». J'aime bien quand les fins, c'est boum.
Ouais. Non mais c'est vrai, ça marche très bien. Y a aussi dans cet effet de discours indirect libre. Merci de m'avoir donné le nom de ma figure de style. Un effet aussi de profusion de voix. On est aussi dans un phénomène de mansplaining permanent, c'est-à-dire que cette héroïne est perpétuellement conseillée par des personnes, son petit ami, son médecin, son collègue, son patron. C'était le sentiment que vous aviez aussi quand vous le viviez à l'époque, ou vous l'avez caricaturé, j'imagine, aussi un peu dans le livre.
Sur certains points, j'ai mis le curseur un peu plus haut, mais oui, tout à fait. On te dit ce que tu dois faire, on te dit ce que tu es, on te définit, on te dit comment tu dois ressentir les choses. J'ai fait intervenir tous ces gens aussi pour faire émerger une forme de cœur grec de la société qui est représentatif de l'opinion publique sur ce type de problématique, c'est-à-dire on s'en fout. On s'en fout et on s'en fout de ce qui t'arrive, on s'en fout de toi. Et donc, régulièrement, dans le livre, il y a des tablés de copains qui discutent et puis qui te disent « c'est ça que tu dois faire, là c'est ta faute ». Mais c'est pas, j'ai pas l'impression d'avoir particulièrement... Non, j'ai pas l'impression d'avoir exagéré les choses.
Et elle a du mal aussi à trouver des solidarités parmi les femmes, c'est ça qui est un peu triste.
C'est un sujet qui est tellement pas politisé. Il commence à l'être, mais c'est vraiment le début, qu'il y a peu de femmes qui croient encore qu'elles peuvent être concernées. Il y a peu de femmes qui comprennent que c'est de la misogynie et que donc ça pourrait leur arriver à elles aussi, et que si ce qui vise une femme en tant que femme, c'est censé les concerner tout simplement, et puis en tant qu'humain. Mais c'est tellement, on m'a tellement dit que quand il y avait un type en particulier qui m'emmerdait, que c'était une dispute, un conflit de personnes. Or, c'est quelqu'un que je ne connais pas, c'est un inconnu qui, out of the blue, s'en prend à moi. Te dire que c'est une dispute, que c'est un fait divers isolé et que ça n'arrive qu'à moi, puisque c'est ce qu'on dit à toutes les femmes qui sont harcelées, quasi, hein, ça n'arrive qu'à toi, ce genre de choses, ça t'empêche de prendre en compte, de prendre simplement connaissance de la dimension collective de la problématique et donc de sa dimension politique et des éventuelles réponses collectives à lui apporter.
Sans parler de tout le sexisme intériorisé aussi, qui fait que même les femmes qui le ressentent comme elles dans le livre ne sont pas du tout conscientes, en fait, du problème qu'il peut y avoir derrière, quoi.
Et puis ce qu'elles disent aussi, ces femmes et les hommes aussi de l'entourage, quelque chose qui revient très souvent quand t'es emmerdé par un type sur internet, c'est
aller, t'as refusé ses avances, c'est ça? Ou qu'est-ce que t'as fait? Ou mais t'inquiète pas, c'est un frustré sexuel, c'est un con. Donc c'est toujours lié des comportements de prédation misogyne à quelque chose que tu aurais fait ou pas fait. La référence systématique à la misère sexuelle des harceleurs, qui est en fait c'est faux. Hein, il y en a plein qui ont une vie sexuelle extrêmement épanouie et diverse. Mais donc ça part du principe. Enfin, je déteste moi cette expression misère sexuelle parce que ça laisserait croire que la sexualité est une transaction et un dû en fait, et que ne pas s'y soumettre en tant que femme, bah c'est alors ça donne logiquement naissance à des comportements violents.
Alors je veux pas spoiler et en même temps je vais spoiler. Donc je propose aux gens qui écoutent le podcast qui sautent 5 minutes, je propose aux gens qui sont ici de se boucher les oreilles pour 5 minutes, je sais pas, je vous fais des signes quand c'est fini, un truc comme ça, mais attention maintenant je spoil, à la fin elle rêve de le tuer,
ouais.
Et moi j'ai vu du Dépente là-dedans, j'ai vu du Baise-moi, j'ai vu du Valérie Solanas, du Scum Manifesto, et je me suis demandé comment était venu ce scénario final de l'homicide.
C'est venu de mes propres envies. Parce que... Ouais, ça m'est arrivé d'avoir envie de buter quelqu'un et de le voir à l'agonie et de jouir de cette agonie. Bien sûr. Et ça me semble normal, je me sens pas folle en fait, parce que quand t'as à ce point peu l'écoute de ton entourage, des médias, des institutions, de la police, de la justice, bah qu'est-ce qui te reste à faire à part fantasmer une mise à mort la plus gore possible. Et donc ouais, je me rappelle qu'avec une copine j'étais dans un café et on s'est dit qu'est-ce qu'on lui ferait bien, et on a commencé à faire des listes. Et on s'est marré comme des folles. Et puis j'ai un peu rapatrié cette liste à la fin du bouquin. Et puis les éditions du Seuil l'ont lu. Et le service juridique a lu la liste. Et elle m'a gentiment demandé de modifier bien des choses. Donc en fait, cette liste de ces listes, c'est hyper édulcoré par rapport à la version originale.
Ça devait être bien trash parce que...
Oui, oui, il y avait des meurtres sur des enfants aussi dans le... dans le bouquin, et donc il y avait, j'imaginais qu'un dentiste amateur lui arracherait les dents une à une à vif, et elle m'a dit non, ça c'est un peu trop, donc j'ai mis pour faire un petit peu comme si c'était une blague qu'un dentiste amateur lui remplaçait les dents de devant par des brocolis. Mais ça vient de la relecture par les juristes de la maison d'édition.
Mais ça, c'est vraiment intéressant, parce que quand on y réfléchit, j'avais pas cet épisode de censure, mais ça va complètement dans mon sens, parce que Baise-moi donc, a été censuré au cinéma. Hein, on sait que Virginie Despentes, si elle est blacklistée du cinéma français, c'est à cause de ce crime original. Valérie Solanas, Scum Manifesto, qui est donc un appel à assassiner les hommes pour qu'on soit tranquille entre femmes, c'est un livre qui a été censuré, qui est passé sous le manteau pendant des années. Voilà, c'est pas du tout passé auprès de votre éditeur, cette idée de tuer un homme, alors que des livres... des films où des hommes tuent des femmes, il en sort 10 000 par jour. C'est quand même intéressant.
Ouais.
Et je sais pas, il y a quand même un tabou ultime en fait, dans cette idée-là.
Ouais, les femmes qui tuent, les femmes violentes, qu'est-ce qu'on fait de notre violence? Et tu sais que Baise-moi, le film, est édulcoré par rapport au bouquin, parce que dans, ouais, le film, dans le livre, elle tue un enfant.
Ouais.
Ouais. Ouais. Et donc ça a disparu de la version film, qui est pourtant la version qui a fait le plus scandale.
Ça a été une source d'inspiration pour toi, Baise-moi, j'imagine, dans toute cette réflexion
Certainement, inconsciemment, Baise-moi, et puis l'intégralité de l'œuvre et des interviews de Virginie Despentes, que je pense que j'aime encore peut-être plus que ses livres, c'est ce qu'elle raconte à la radio et dans la presse écrite quand je la lis. Ouais. Oui, c'est la manière qu'elle a d'être cash et de dire les choses telles qu'elles sont. Elle est souvent caricaturée en auteur trash, mais elle a juste la juste brutalité pour dire exactement ce qu'elle a à dire et ne pas tourner autour du pot, dire les choses telles qu'elles sont. No bullshit, je cherche ça. Je sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, une phrase, un paragraphe et un livre me semblent équilibrés quand
Ouais, on y va directement, qu'il n'y a pas de gras et qu'il n'y a pas de politesse et qu'il faut se débarrasser de toute politesse. Et elle, elle est débarrassée de toute politesse tout en étant quelqu'un de très poli dans la vraie vie.
Ouais, elle est gentille.
Ouais, très gentille et très généreuse.
Vous avez quand même été contrainte, on va se tutoyer parce que c'est mieux, t'as été contrainte de fermer tes réseaux sociaux réellement à cause du cyberharcèlement?
Non.
Alors quand on dit partout que t'es plus sur Twitter et Facebook, parce que, enfin tu l'as fait quand même, tu t'en es éloignée.
Oui, ça fait un an, mais j'y ai pas été contrainte. Disons qu'à un moment donné, j'ai vu que ça me bouffait un temps de cerveau disponible. Ouais. Absolument indécent, et que, en fait je me suis dit, si ces gens... Jamais je m'assierai à leur table, jamais je laisserai dérouler leur discours misogyne. Enfin, pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Pourquoi est-ce que je vais voir ça sur les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que je m'inflige un contact permanent avec des discours de haine, mais même pas nécessairement de haine, un petit mansplaining ordinaire. Et puis j'ai débranché la prise. Et c'était pas suite à un épisode de harcèlement, c'était suite à... Qu'est-ce que je fous là, en fait? Est-ce que je suis pas en train de totalement perdre mon temps? Et la qualité de vie qu'on attrape quand on quitte Facebook et Twitter, c'est dingue.
Je sais. Le temps qu'on a d'un seul coup devant nous. Bon, y a Instagram qui est quand même bien chronophage aussi, mais...
Oui, mais moins, je trouve. Y a moins de choses. Parce que moi, j'ai une curiosité morbide. Je vais lire les trucs qui me heurtent. Je vais lire les fachos, les trucs dégueulasses. J'y vais. Je lis les commentaires sous les articles de presse en ligne. Je sais pas pourquoi, pour voir dans quel monde je vis, pour voir d'où vient la menace, pour voir qui est l'ennemi, pour mieux le connaître et peut-être pouvoir riposter un jour, me préparer en fait à la bagarre. Mais ça maintenant je fais plus trop. Et donc même mon regard sur le monde a changé. J'ai plus d'a priori positif sur les gens. J'ai plus envie de faire des connaissances. Je suis plus curieuse. C'est bien en fait.
C'est un geste qui sauve. Même si en tant que journaliste, ça représente aussi un sacrifice. C'est aussi perdre une certaine forme d'influence, de pouvoir, même.
Ah bah oui, c'est surtout Twitter. C'est un renoncement parce que tu renonces à une large surface d'expression et tu renonces à une partie de l'espace public. Et c'est quand même con, quoi. Il y a énormément de nanas qui disparaissent de cet espace public-là, et donc ça fait plusieurs voix féminines. Et souvent des voix féministes qui s'éteignent les unes après les autres, et alors qu'on croyait qu'Internet allait tellement démocratiser la parole, on voit que, non. Il y a quand même un backlash et un retour en arrière, et ceux qui hurlent, ceux qui prennent tout l'espace, c'est les mecs.
Ouais, on entend que. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais j'avais envie qu'on puisse échanger au moins un petit peu, même si c'est un sujet assez lourd, sur votre prochaine pièce de théâtre qui s'appelle ADN. Ouais. J'ai cru lire sur votre compte Instagram que c'était né d'une découverte concernant votre propre conception.
Ouais.
Pardon de vous amener en... Résumez-moi en 3 minutes ce que ça fait.
Non, mais je commence à en parler, à faire des interviews là-dessus, donc je... voilà. Alors il y a 2 ans et demi, mes parents m'ont annoncé que mon père n'était pas mon père et que j'étais le fruit d'un don de sperme anonyme. Alors qu'est-ce qu'on fait avec une nouvelle pareille en fait?
Tout tard comme ça,
c'est... Ouais, à plus de 35 ans. C'est quand même bizarre. Tu dois relire un peu tout ton passé à la lumière d'une information que tu possédais pas. Il y a un peu tout qui change et en même temps rien qui change, et c'est très perturbant. C'est pas une tragédie, mais c'est pas non plus quelque chose de particulièrement rigolo. Enfin, c'est très bizarre. Et étant particulièrement désorientée par cette annonce, surtout qu'en fait, une fois qu'on te l'annonce, que tu es le fruit d'un don de gamètes anonyme, y a donc un premier secret qui est levé, mais il y en a un deuxième qui est pour toujours celui-là, c'est-à-dire que tu ne sauras jamais en fait qui est cette personne, même si tu veux le savoir. Ces informations que les médecins détiennent, ils ne sont pas autorisés à te les donner. Et alors j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et j'ai été rencontrer des tas d'enfants de donneurs pour qu'ils me racontent leur histoire, et ça me permet, pensais-je, de combler les blancs de la mienne.
Et en les rencontrant, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous des vies plus incroyables les unes que les autres, des histoires folles, parfois très révoltantes, parfois très belles, parfois extrêmement modernes. Et chaque témoignage valait un film, chaque témoignage valait une pièce de théâtre, c'était dingue. Et j'ai décidé d'en faire une pièce documentaire où des comédiens vont rejouer les différents témoignages, évidemment des parties éditées et tout ça cousu dans un récit qui interroge l'identité, la filiation, la virilité aussi, beaucoup, le secret, le mensonge, le secret de famille, et pour au final poser la question, sans évidemment y répondre, qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est ? Et d'où on vient. Et c'est évidemment très vertigineux comme questionnement existentiel. Mais moi, ça a été vraiment un... C'est le projet qui m'a procuré le plus de plaisir de toute ma vie, le plus d'émotions, et que je trouve le plus beau, et dont je suis le plus fière.
Jusqu'ici,
ouais.
Bravo, c'est extraordinaire alors, d'avoir réussi à... Le...
Merci. Mais ça ne me donne toujours pas de réponse, et je ne sais toujours pas qui, d'où je viens. Voilà. Mais la vie devient une sorte de science-fiction quand même quand t'apprends ce genre de truc, et c'est un côté passionnant quand même. C'est pas que de la perturbation, c'est aussi un champ d'investigation mentale complètement génial qui s'ouvre.
Mais c'est aussi un questionnement très intéressant qui est posé là et qui en fait est très tabou, même chez les plus progressistes. En ce moment, il y a une personne qui se positionne beaucoup là-dessus, c'est Amandine Gay, qui travaille sur l'adoption. Et dans le débat sur la PMA, où ça semblait être allé de soi, qu'il était, enfin voilà, que pour les couples de lesbiennes, qu'elles puissent accéder à des donneurs anonymes pour pouvoir faire leur PMA sans qu'il y ait un père qui se manifeste, etc. Amandine souligne que oui, certes, c'est important pour les lesbiennes, mais c'est aussi important pour un enfant de pouvoir avoir accès ses origines si elle le souhaite, pour accès aux dossiers médicaux des personnes qui les ont. Enfin, donc ça, il y a tout un débat qui doit avoir lieu
mais qui
n'a pas lieu. Donc si cette pièce permet d'avoir aussi une réflexion là-dessus, voilà.
Oui, c'était mon but, parce que les enfants, enfin les conséquences de la PMA, c'est vraiment l'angle mort du débat. Personne n'en parle. On parle des parents qui font ce type de démarche, on parle des couples, on parle des donneurs aussi, parce qu'il y en a plein qui parlent, des médecins, mais les enfants, on ne sait pas qui c'est, quoi. Et on parle d'eux comme si c'était, on dit toujours les enfants de donneurs comme si on était des bébés. Moi, j'ai 38 ans, la première génération d'enfants de donneurs a une quarantaine d'années, c'est des adultes qui, quand ils la connaissent, peuvent raconter leur histoire. Le truc, c'est qu'ils ne la connaissent pas beaucoup, hein. Et on estime qu'il y a peut-être 10% des enfants de donneurs qui sont au courant, qui sont enfants de donneurs, parce que le corps médical, voilà, c'est la tradition, c'est de rendre la fiction possible, et c'est le couple, enfin c'est la personne qui fait la démarche qui a les pleins pouvoirs pour révéler ou non la vérité sur la conception de l'enfant à l'enfant. Mais ça crée de facto une catégorie de personnes totalement à part dans le monde, qui sont, enfin la Convention des droits de l'enfant dit que dans la mesure du possible, les enfants doivent avoir accès aux données sur leur origine. Mais dans la mesure du possible, qu'est-ce que ça veut dire ? Puisqu'ici, c'est possible et que ces informations existent et que les médecins les ont. Eh bien, voilà, nous sommes des gens à part et des gens dont on parle et pas encore les gens qui parlent. Et donc, c'est pour ça que cette pièce aussi est là pour donner la parole à ceux qu'on n'écoute pas et qu'on n'invite jamais à ce genre de débat.
Moi, je reviendrai à Bruxelles pour la voir, ouais. Madame Leroy, ça évoque quoi pour vous, la poudre ?
Ça évoque le feu, un coup de feu qui claque. Ça évoque la violence.
Merci beaucoup, Myriam Leroy.
Merci beaucoup.
Merci à Myriam Leroy d'être venue faire parler la poudre avec moi.
La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre Lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.